Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes quelques jours de la fête de Pessah. Cette fête, c'est une fête très très importante, non seulement par les choses qu'on fait, mais aussi par les symboles. Comme il est marqué dans cette Agada qu'on va lire le soir de Pessah, il est marqué que chaque génération, chaque doit se considérer comme si lui-même il est sorti de l'Égypte. Alors bien sûr il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de manières de les voir. Mais la vision chassidique, c'est tout simplement, c'est notre histoire. Ça veut dire que la sortie de l'Égypte, c'est une réalité, mais c'est aussi un modèle de vie. Comment je considère la vie. Alors c'est vrai que dans la vie, on a ce qu'on appelle l'Égypte, et il y a aussi cette notion de sortir de l'Égypte. Alors, ça dépend d'une manière de voir, d'une manière de penser dans la vie. Et dans la vie, on considère, alors, il y a pas mal de choses que la petite détail change tout. Si, d'ailleurs, parmi les bases de Pessah, c'est que les différences entre une chose et l'autre, il ne doit pas être, entre deux opposants, il ne doit pas être forcément une grande différence, c'est un petit virgule qui change tout. Ok, grâce à ces virgules, je suis d'une extrémité, et à cause de ces virgules qui manquent, je suis d'une autre extrémité. Alors, pour donner un exemple, la fête de Pessah, on le pratique par la matzah. On mange de la matzah et on l'éloigne au maximum ce que s'appelle le chametz. Chametz, c'est le pain levé ou bien tout ce qui rentre dans cette catégorie. On éloigne, on chasse de la maison, et c'est d'ailleurs parmi les fêtes les plus pratiquées, même si on peut dire que c'est un petit peu visiblement, c'est un peu bizarre, si on peut dire, plus que les autres, loin de la Torah. Comment les Juifs, ils font à fond cette mitzvah de chasser les chametz de leur maison, donc de ce... de leur demeure en général, et comment on fait très attention à manger de la matzah pendant les 7 jours ou 8 jours en dehors d'Israël. Alors, les différences entre chametz et matzah, c'est pas grand. C'est pas comme les différences entre les citrouilles et les grenades, les citrouilles et les, par exemple, les citrons. Ou bien des choses qu'ils sont aucun rapport, ils ont carrément loi l'un et l'autre. La différence entre la matzah et le chametz, c'est une petite différence, un petit moment de non attention. Donc la matzah devient chametz. Ça veut dire le fait même qu'elle gonfle un petit peu même, elle devient chametz. Donc on chasse. Et on va peut-être expliquer tout à l'heure un petit peu les symboles. Il faut comprendre, bien sûr, peut-être non, parce qu'il y a Pessah, c'est une fête avec énormément de profondeur, en même temps beaucoup de symboles, en même temps beaucoup de devoirs, de ce qu'on peut apprendre pour toute l'année de Pessah. Mais ce qui est intéressant, donc, que les différences entre le chametz et la matzah, c'est une toute petite différence qui fait une grande différence. Et aussi de la façon comment on l'écrit. Et le mot matzah et le mot chametz, ils sont composés par les mêmes lettres. Le mot matzah est composé par le mot mem, qu'on trouve dans le mot chametz, mem au milieu. Il y a dans le mot matzah, on a le tzadik, qu'on trouve aussi dans le mot chametz, seulement que dans le mot chametz, c'est tzadik final, et ici c'est tzadik simple, mais c'est la même chose. Donc c'est le même tzadik. Donc alors, on trouve dans le matzah, comme on a dit, le mem et le tzadik, et dans le chametz aussi, on trouve le mem et le tzadik. La seule différence, c'est que dans le mot matzah, on trouve le mot he, et dans le mot chametz, on trouve la lettre, chet. Et c'est quoi la différence entre la lettre he et la lettre chet? C'est toute une petite différence. C'est un petit virgule qui manque dans le he, qui devient chet. Donc ça montre comment dans les symboles de Pessach qui symbolise le début de notre judaïsme, ça veut dire la base du judaïsme. Alors là, on trouve que la petite différence fait tout. D'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui, dans notre période des nets, ou bien on a certainement d'autres exemples dans la vie, qu'un petit, quelqu'un qui fait, va écrire une adresse mail, mais il va oublier un point, alors ça ne va pas marcher. Même si que tout est juste, seulement qu'il manque un point. Ou bien il y a d'autres exemples dans notre vie que parfois le petit point change tout. Mais ici, c'est pas seulement que puisqu'il manque, alors c'est pas ça. C'est le petit point fait les différences en deux extrémités. Parce que ce que symbolise le chametz, c'est quelque chose qui est tout le mal. Et tout ce que représente la matzah, c'est tout ce qui est bon. Alors, encore quelque chose peut-être dans ce sens, puisqu'on parle déjà de ça. C'est intéressant, on sait que dans la loi juive, il y a des lois, il y a beaucoup de lois, certaines qu'on comprend, certaines qu'on ne comprend pas. Il me semble qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière. Il y a des mitzvot, et d'ailleurs c'est parmi les questions, puisqu'on a parlé la semaine dernière, des questions de fils. Donc il y a le fils sage, le fils moins sage, etc. On a quatre niveaux. Et le sage, il pose des questions détaillées, parce qu'il est sage, donc il veut aller au-delà de sa compréhension, encore loin. Donc alors, le sage, il pose la question, quelle est la différence, finalement, entre les chukim, les lois qu'on ne comprend pas, les lois qu'on a leur signification, et les lois qui sont au milieu, qui s'appellent les doutes. C'est vrai que les mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot, des lois qu'on ne comprend pas, on a le devoir de chercher, mais la Torah ne donne pas la raison. En tout cas, ce qu'on a parlé tout à l'heure, que la Torah nous a interdit de manger ce qu'on s'appelle Hametz pendant cette période, et on mange la matzah. Et ce qui est interdit, que puisque la loi de kasher, de kashrut, n'est pas expliqué dans la Torah pourquoi le porc est interdit, pourquoi il ne faut pas mélanger les viandes, ou bien pourquoi le chameau est interdit et par contre d'autres bêtes sont permis. La Torah nous dit voici ce que vous allez manger, voici ce que vous n'allez pas manger. Mais donc alors on fait confiance, on sait que c'est comme ça, c'est lui qui veut chercher, alors on a les moyens de chercher, parfois on trouvait des choses, aujourd'hui on dit, grâce au biais de la science ou d'autres, qu'on comprend pas mal de choses que la Torah nous a dit, mais à l'origine, la Torah ne nous donne pas d'explication. Donc il y a des choses cachères, il y a des choses non cachères, mais toute l'année, le chametz, donc le pain normal, est cachère, et même au moment de la fête de Sukkot, la fête de toute l'année, non seulement que c'est kasher, c'est même un devoir de manger de chametz. Par contre, Pessah, d'un coup, ça devient interdit, mais pas seulement, c'est pas interdit comme les autres choses. Quelqu'un qui a un porc à la maison, à la limite, oui, c'est pas bien, mais à la limite, c'est pas grave parce qu'il ne le mange pas. C'est que chez lui. Mais le chametz, non seulement qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon à tel point qu'il faut chasser. Et c'est ce qu'on fait, on va faire ce soir. Là, je vous parle le jeudi 10. Ce soir, on va chercher le chametz. Chercher le chametz d'une façon un petit peu exagérée aux yeux de certaines personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on exagère? Alors, c'est vrai que c'est parmi les mitzvot que la Torah ne nous donne pas vraiment la raison, et d'ailleurs, au niveau symbolique, il y a beaucoup de raisons, en fait, il y a beaucoup de profondeur, mais en tout cas, à la base, il n'y a pas de raison, puisqu'en Égypte, bien, c'était comme ça, alors vous allez faire comme ça. Et d'ailleurs, en Égypte, ce n'était pas tout à fait comme ça, mais on ne va pas rentrer dans cette question. Alors, la question qui se pose, comment ça se fait que ce qui est bon toute l'année, ce qui est cher toute l'année, devient quelque chose d'interdit à détruire, à brûler la période de Pessah. Alors la Chassidoute explique au niveau spirituel, qu'est-ce que représente la matzah, qu'est-ce que représente en général les pains, et ce qui représente la matzah. Mais là, on va parler d'une façon plus générale, peut-être on va pas rentrer les détails, peut-être on aura le temps, mais l'idée c'est que, comme chez les enfants, il y a des choses que c'est bon pour tout le monde, mais quand on est tout petit, c'est pas bon. Donc, là aussi, puisque la fête de Pessah représente la naissance du judaïsme, alors dans la naissance, ce qui va être bon après, même nécessaire, c'est pas encore bon. Donc, alors là, on a compris d'une façon très, très générale. Alors, en quelques mots, juste ce qui est manqué par rapport à... comme on a dit tout à l'heure, que la Torah ne nous dit pas exactement la raison pourquoi on ne mange pas Hametz. En tout cas, la Torah ne nous dit pas des choses qu'on peut comprendre bien. Seulement, comme on a dit, il me semble que je disais la semaine dernière, qu'il y a des objets qui nous rappellent certaines choses, donc on a cadré l'objet, et donc on a dit que le Hametz est interdit, la matzah est permis. Elle est nécessaire même. Encore, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails maintenant parce que c'est long. Mais dans la Kabbale et dans la Chassidut, on développe. On sait que au niveau scientifique aussi, on sait aujourd'hui. Mais en tout cas, on sait que l'homme, lorsqu'il mange quelque chose, il y a une certaine influence sur lui, sur son âme. Comme ça, ça c'est parmi les explications qu'on donne sur les kachers et les non-kachers. On dit que ce qu'on mange, c'est que l'élément qu'on mange influence sur notre âme. Et c'est pour ça qu'il y a des choses à éviter, il y a des choses au contraire, c'est nécessaire de manger. Par contre, pour la fête de Pessah, comme on a dit tout à l'heure, qu'on est à notre naissance, à notre début, donc à ce moment, il y a des choses que ce n'est pas bon de manger. Alors, en général, on dit que les pains, il faut expliquer ça au niveau scientifique comment ça marche, mais le pain, il développe certaines connaissances, certaines intelligences chez l'enfant qui mange le pain, est nécessaire. Il est marqué cette idée, alors là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça va, mais il est marqué dans nos références, il est marqué que l'enfant il sait dire papa lorsque il goûte les céréales. Bien. Qu'est-ce que ça va avec au niveau scientifique? On va laisser pour le moment. Mais en tout cas, la Chassidut explique que il y a, ça c'est la nourriture générale, mais il y a la nourriture qui a un sens spirituel, comme une nourriture de mitzvah. Que lorsque je le mange, alors à ce moment-là, j'ai un effet spirituel en moi lorsque je le mange. Et Pessah, lorsque je mange le pain, qu'en général, il me donne, comme on a dit tout à l'heure, une certaine connaissance, surtout par rapport à ce que c'est notre père, par rapport aux relations père-fils, en fait, certainement père-fils, c'est plus général, les parents et les enfants. Mais Pessah, puisque c'est une nourriture de mitzvah, donc une nourriture quelque part des devoirs spirituels, donc ça nous donne une connaissance dans notre père spirituel, donc dans la divinité. Et c'est pour ça que pendant Pessah, on mange la matzah, et la matzah nous développe la foi. Alors là, il faut revenir à cette idée que Pessah, c'est la fête de la foi. On est dans un monde où il faut avoir la foi pour voir, pour avoir une vision dans la vie. Et déjà, il faut avoir la foi parce qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et on a besoin de la foi pour pas mal de choses parce qu'au niveau des connaissances, on est assez limité. Et quand on développe de temps en temps que la connaissance, c'est quelque chose qui est assez limité. Et la foi, elle vient toujours au-delà de la compréhension. C'est lui qui comprend, il croit pas, parce qu'il comprend. Et là où il comprend, c'est là où on n'arrive pas à... Là, apparemment, on n'a pas besoin de la foi, c'est pas vrai, mais on a la pression. Puisque je le sais, Alors, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'utiliser cette force de la foi. Et lorsque j'utilise la force de la foi, ça veut dire que je ne comprends pas. Parce qu'à ce moment-là, oui, comme on a dit, on n'a pas besoin d'utiliser. Donc, la foi et la connaissance sont complémentaires. Mais ils ne sont pas, ça veut dire, apparemment, ils ne vont pas en même temps. Là où s'arrête la connaissance, commence la foi. Alors, on est dans un monde où on a besoin de la foi, on a besoin de la connaissance. Ça veut dire que la connaissance, il y a certaines personnes qui ont des connaissances. Alors, la foi, ça dépend comment j'explique la foi. Il y a des gens qui font qu'ils ont la foi. La foi, ici, je vais expliquer, quelque part, la confiance aux autres, parce qu'on ne va pas vérifier chaque chose. Je fais la confiance aux autres, à ce qui a été fait avant moi. Et à ce moment-là, j'utilise, j'essaie de comprendre ou non, mais j'utilise. Je rentre dans une voiture, je ne vais pas moi-même vérifier tout le système. Je ne vais pas défaire la voiture pour voir si tout a été fait bien. Je fais confiance. Donc, alors, dans notre vie, il y a une notion de confiance que là, je traduis un petit peu par la foi. Et il y a une notion de connaissance. Mais dans la vie spirituelle, ou bien d'une façon plus large, la foi fait partie de notre connaissance. Il y a certaines personnes que leur foi est beaucoup plus développée. Il y a certaines personnes que leur foi est beaucoup moins développée. Il y a des personnes que leur connaissance elle est pas du tout, ils n'ont pas de connaissance dans ce domaine, et ils n'ont que la foi. Vous allez leur demander pourquoi tu fais ça, parce que je crois à ça et ça et ça, et leur croyance est tellement forte que c'est évident. Et pourtant, vous allez leur poser des questions, ils n'ont pas de réponse, mais c'est évident que c'est comme ça. Et il y a des personnes, par contre, qui vont comprendre, ils vont expliquer. Et donc, ils n'ont pas besoin de la foi, comme on a dit tout à l'heure, pour savoir, même quand il s'agit de Dieu, on a pas mal de choses à comprendre, soit il est marqué dans les Tehillim, en fait, à Shamaim, ça suffit de regarder autour de nous pour voir la divinité. On sait que beaucoup de scientifiques, peut-être pas tous, mais beaucoup de scientifiques, finalement, ils ont arrivé à une conséquence qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, sauf par la foi, par le fait qu'il y a un Dieu. Et c'est très raisonnable, très intéressant. Il faut reprendre ce sujet une autre fois. Mais, alors on a un petit peu sorti de sujet. La pratique commence par la foi. Donc, le Pessah, c'est la base de tout. Donc, on commence par la foi. C'est pour ça que la foi est liée avec cet élément qui s'appelle pas. De même qu'on a dit tout à l'heure, encore une fois, il faut que je vérifie et comment on explique ça au niveau scientifique. Mais en tout cas, comme ça, il est marqué dans la Kabbale et la Chassidut, qu'un enfant, ça lui donne une connaissance, comme quelqu'un qui dit à son père papa, mais d'où est-ce qu'il sait que c'est son papa? Et il ne sait pas comment il est son papa, mais en tout cas, il a une connaissance profonde sans savoir comment. Ça s'appelle la foi. Et là aussi, cette foi est la base du judaïsme. On a cette foi en Dieu, mais cette foi, elle a besoin d'être alimentée. Et donc, c'est grâce aux éléments, à l'alimentation des Pessahs que ça nous aide à développer cette foi. Mais ensuite, comme chaque chose, il ne faut pas rester au niveau de foi, il faut développer cette foi par la connaissance. Et comme on a dit tout à l'heure, que la foi, souvent, elle arrive avant la connaissance, mais aussi elle arrive après la connaissance. Et au milieu, il y a la connaissance. Et quand la foi elle est basée sur une connaissance, la foi, elle va au-delà. En tout cas, le jour de Pessah, on est en train de travailler sur notre foi, soit par les choses qu'on comprend, on essaie de comprendre, on essaie de raconter. C'est pour ça que l'histoire de Pessah, on raconte beaucoup, on explique à nos enfants. Comme on a dit la semaine dernière, que Pessah, c'est une période où on se met en question. Et cette année, d'ailleurs, il faut se mettre aux questions. Et on invite à chacun de se mettre aux questions. C'est très beau, c'est très important, parce que quelqu'un qui ne se met pas aux questions, je ne veux pas utiliser des termes, mais en tout cas, ce n'est pas bon. Donc, c'est très important, c'est très bien, c'est très... Je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Quelqu'un qui se met en question. Et Pessah, on se met en question. Mais en général, en ce moment, on peut se mettre en question pour... qu'est-ce que c'est le peuple juif? Pourquoi certaines personnes ne nous aiment pas du tout et certaines personnes, peut-être le contraire? Qu'est-ce qui se passe autour de ce petit pays Israël qui est tout petit et pourtant tout le monde parle? Et même, on peut imaginer les mêmes problèmes ailleurs et ça n'intéresse pas autant que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent interroger d'une façon générale. Et Pessah, c'est le moment de se poser ces questions, de se mettre en question. Chacun selon son niveau, mais c'est le moment de se mettre en question. Mais d'une façon plus générale, Pessah, c'est le moment où on alimente notre foi. Et c'est pour ça que il y a la foi qui est alimentée par les différentes choses qu'on étudie, mais la foi aussi est alimentée par les différentes choses qu'on mange. Et ça, c'est un petit peu l'esprit de Pessah. Ok, là, on va un petit peu continuer faire notre tour. On essaie de parler d'une façon très générale, surtout qu'on est le dernier moment avant Pessah. Et on a dit tout à l'heure que Pessah, c'est la naissance du judaïsme. Et c'est pour ça que ce qui n'est pas nécessaire toute l'année, c'est nécessaire le moment de Pessah. On se considère comme des petits-enfants, qu'on met tout en question. Et donc, quand on met tout en question, quand on a parfois sur nos téléphone, à ce moment, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on n'utilise pas l'ordinateur pendant le moment où ça formate. Là aussi, il y a des choses que toute l'année on fait, là on ne va pas faire. Maintenant, donc, on a dit comme ça qu'à un moment donné, dans la Agada, on va dire cette phrase: Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo, kilu hu yetza mimitzrayim. On a commencé avec ça. Ça veut dire que chaque génération, il faut considérer comme si c'est nous qu'on est sortis de l'Égypte. On a dit que la Chassidut, on dit que c'est tous les jours qu'il faut considérer. Tous les jours, mais en tout cas, une fois par an. Une fois par an d'une façon générale, tous les jours, en vérité, tous les jours d'une façon générale, d'une façon détaillée et poussée, c'est une fois par an. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est une histoire de la sortie de l'Égypte, c'est un modèle pour notre vie. Et comme on a dit tout à l'heure, j'ai un petit peu j'allais plus loin, mais on a la foi. On a la foi en Dieu. On sait que Dieu, il avait un projet dans ce monde. Dans ce projet, d'ailleurs, dans la Haggadah, on raconte l'arrivée en Égypte et la sortie de l'Égypte, mais après, à un moment donné, on revient en arrière, même avant la sortie de l'Égypte, pour montrer que cette notion de l'arrivée, des souffrances, des délivrances, c'est des choses qui commençaient bien avant et continuaient bien après. Ça veut dire que cette notion qu'au début c'était dur, ensuite c'était arrangé, si on peut dire, en tout cas on était libéré, ça commence bien avant la sortie de l'Égypte. On donne l'exemple de Yaakov. Et ensuite on donne l'exemple du père d'Abraham, que le peuple juif vienne d'un endroit opposé au judaïsme. Ça veut dire que pour arriver au judaïsme, on a passé par des chemins, long chemin. Ça veut dire que le début du judaïsme, c'est l'obscurité. Donc, le début du judaïsme, c'est l'obscurité, comme la souffrance et l'esclavage égyptien, que pour arriver à la liberté, on devrait passer par cet esclavage. Et avant, on monte plus haut. Yaakov, pour créer sa le peuple juif devait passer par Lavan, que selon la Haggadah, Lavan c'était le beau-père de Yaakov, et selon la Haggadah, il était pire que Pharaon, comme la Haggadah nous explique. Et pourtant, de cette souffrance, on est sorti fort et puissant. Et aussi, on va encore plus loin, Abraham, le premier juif, il vient d'où aussi? D'un opposant. Ça veut dire que le Terach, le père d'Abraham, était carrément opposé aux idées d'Abraham, et pourtant Abraham il sort de là. Alors donc, c'est une idée très générale qui nous dit que toujours, de la souffrance, il faut trouver comment on arrive à quelque chose de très positif, pas seulement positif, d'une façon générale, très positif. Ça, c'est l'esprit de ce qu'on va dire, qu'il faut considérer, il faut voir, il faut ouvrir les yeux. D'une part, à savoir que toute génération, il y a ce qui veut nous détruire, et pourtant, on sort de ça gagnant. Alors, c'est sûr qu'il faut expliquer cette phrase. Ça, c'est d'ailleurs le fameux Vishamda qu'on dit au milieu, le chant Vishamda. Mais c'est une idée très générale dans cette Agada, d'une part savoir que les problèmes commencent bien avant l'entrée en Égypte et ils continuent bien après la libération de l'Égypte. Donc chaque génération, il faut considérer comme si nous-mêmes, on est sortis de l'Égypte, parce que c'est vrai. C'est un modèle, mais c'est vrai. Seulement qu'à la sortie de l'Égypte, on nous a donné une force spirituelle, qu'on peut se libérer de chaque génération. Avant, on avait pas, de chaque fois où on a une situation dramatique, il faut soulever au-delà des problèmes. Comme les différentes explications qu'il y a dans ce sujet. D'ailleurs, dans le Chassidut, on explique cette idée de différentes manières, mais d'une façon générale, c'est ça. C'est que chaque fois où on est dans une situation difficile, on a notre force morale et aussi matérielle de soulever, de voir plus clair, de voir au-delà, de voir plus loin et aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il est marqué, il est marqué que depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la période messianique, le Messie, alors, on est en train de sortir de l'Égypte. Encore, l'Égypte, c'est un modèle, c'est un pays, mais en même temps, c'est un modèle, c'est une idée d'étroitesse, c'est une idée de souffrance. Et donc, on est toujours en train de sortir, même au moment où on a l'impression que la vie est dure. Et c'est vrai que la vie est dure, mais le judaïsme voit cette vie dure comme quelque chose, comme des étapes. Etc, etc, c'est des sujets qu'on peut développer énormément et c'est développé énormément. Et puisqu'on est à la veille de Pessah, alors tout d'abord on invite tout le monde de participer à cette fête de Pessah. Rappelons que cette année c'est particulier, il y a des choses qu'on commence déjà ce soir, puisqu'on est cette année Pessah, la veille de Pessah tombe Shabbat, donc ça change pas mal de choses. Renseignez-vous, c'est difficile un petit peu de dire en ligne. Et renseignez-vous comment faire cette année sur internet, vous allez trouver facilement. Il y a donc ce soir, on va chercher le Hametz, encore comme il est marqué, comme vous pouvez trouver sur internet la formation. Demain, vers midi, on va brûler le Hametz, c'est une habitude. Et pourtant, on va garder un peu de Hametz. Dans certaines conditions que là aussi, il faut se renseigner dans les différents guides. Et pour manger le soir, donc vendredi soir, parce que c'est une mitzvah, c'est un devoir de bien manger des pains le vendredi soir et samedi matin. Donc cette fois-ci, dans les synagogues, on prie plus tôt pour qu'on puisse terminer et manger le chametz bien, bien avant l'heure. Et il me semble que c'est vers 11h quelque chose, cette fois-ci. On va dire 11h, il faut aussi regarder dans nos régions de gens, et il faut voir qu'est-ce que ça donne. Là, on arrête de manger le chametz, et encore d'autres détails que c'est important. Ensuite, le soir, il y a le soir, donc le samedi soir et dimanche soir, c'est important donc d'aller au seder. Donc il y a ce que s'appelle le seder, il y a tout un ordre à dire, à faire, à apprendre, à sentir. Donc il faut faire ce seder, que dans ce seder on fait des choses, mais en même temps on alimente notre foi, notre conscience, notre connaissance Le soir de Pessah, on raconte l'histoire. En même temps, on sent qu'on est, ça nous concerne et comment cette vision, et surtout selon le Rabbi de Lubavitch, que notre génération, c'est la génération de Mashiach. Donc, alors, on les prend en considération que tout ce qui se passe autour de nous, même si c'est difficile, mais ça nous avance. Pas comme on a la pression parfois qu'on recule, mais on avance, ça c'est cet esprit. En tout cas, ça c'est un petit résumé par rapport à cette idée. Donc essayez de participer à ces seders, des matzot, on mange les soirs de Pessah, c'est très important. Celui qui l'a pas, il peut nous contacter. Bien, alors c'est le moment de vous souhaiter une très bonne Pessah kasher, sa mère Pessah kasher et joyeux. Et que de ce Pessah, on va aller vers la vraie liberté personnelle et générale du monde. Merci beaucoup pour votre écoute et attention. Et encore Pessah kasher ou sa mère.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.